Radio Campus Paris présente la séance du dimanche par Vitamine Ciné. Au programme aujourd'hui, Ferris Bueller et les Teen Movies. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de la séance du dimanche, toujours sur Radio Campus Paris. Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelle formule. Et au lieu de se caler sur les sorties cinéma pour y dégager des grands thèmes, nous allons nous baser sur des films proposés par nous-mêmes, qui seront choisis par tirage au sort à la fin de chaque émission. En l'occurrence, pour ce premier épisode de la saison, c'est vous qui avez décidé laquelle de nos 4 propositions sera au cœur du débat, et malgré une finale très serrée, c'est le film d'Advin qui a gagné. C'est parti donc pour un épisode consacré aux teen movies et la jeunesse au cinéma en général, puisque le film du jour est La Folle Journée de Ferris Bueller. Mais avant cela, tout d'abord deux choses. Merci à vous auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ni à nous écouter en direct un dimanche par mois, que ce soit sur la station 93.9 FM en Ile-de-France ou sur le site internet de Radio Campus Paris. Et deuxième chose, après 4 mois d'interruption, je suis obligé de vous les présenter à nouveau. Ce sont les 3 autres vaillants membres de Vitamine Ciné. Si elle était un collectif, autre que Vitamine Ciné, Adeline serait sûrement les Oufri Maracas, pour sa bonne humeur et sa diversité musicale, sans oublier son accent du Sud. Bonsoir Adeline, comment vas-tu ?
Bah écoute, très bien, et toi ?
Bah, parfaitement. Je vais ensuite passer à Lucas, qui lui serait peut-être un collectif cinématographique, ce serait le Dôme 95. Non pas qu'il soit austère, mais car c'est un mouvement créé par le Suédois, le sournois danois, Lars von Trier, son idole. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Enfin, celui qui possède à la fois la sympathie de Jules et le charisme de SCH, c'est Louis, l'équivalent radiophonique de 13 organisés. Bonsoir Louis.
T'es un tueur, salut.
Et sans oublier Victor à la technique, on est ravis de retrouver pour avoir un son qui pour une fois sera d'une qualité inégalée.
Et au moins ça.
Alors chers camarades, comment allez-vous cinéphilement parlant ? Rentrons tout de suite dans le vif du sujet.
Eh bien écoute, ça va très bien, même si cinématographiquement parlant c'est un peu calme en ce moment, mais sinon ça va bien.
Et vous, Louis, Lucas ?
Bah ouais, un calme un peu plus plat que les autres étés, j'ai envie de dire. On est allé un petit peu au cinéma, je sais qu'on y allait ensemble, on allait un peu dans le quartier latin pour voir des films, mais sinon dans des grandes salles de cinéma, moi j'avoue que j'y suis retourné à la faveur de Tenet, parce que ça a fait venir quand même un petit peu de monde dans les salles, mais sans ça... Un calme un peu plus plat, ouais, que les autres étés.
Et Lucas, toi, l'été cinéphile, c'est bien passé ou plus plat que d'habitude aussi ?
Bon, déjà, tous les étés, c'est généralement assez plat. Enfin, je trouve que les sorties sont pas les meilleures l'été. Alors cet été, c'est d'autant plus vrai, on sait pourquoi. Même si je trouve que ça fait aussi un peu de bien de pas avoir que des blockbusters américains dans les salles. Ça fait pas du bien économiquement, ça c'est sûr, mais culturellement, je trouve que c'est bien d'avoir autre chose... sur les façades des cinémas que voilà des gueules américaines. Voilà, après bon, moi je suis allé très peu au cinéma cet été, je sais pas vous. Bon, je pense qu'on va revenir on peut peut-être revenir tout de suite sur Tenet.
C'est ça, bah, on peut commencer par Tenet.
Ouais, hein. Qui a été la grosse sortie de cet été. Est-ce que vous avez aimé vous ?
Je peux peut-être commencer car je suis vraiment un grand fan de Nolan depuis 10 ans, depuis que j'ai découvert assez jeune Inception au cinéma. Et j'avoue que c'est la première fois où j'étais vraiment déçu d'un film de Nolan, quoi, parce que je trouve c'était censé être évidemment le film qui sauve le cinéma, etc. Mais ça, en soi, on s'en fout, quoi, ça n'a aucun rapport avec le film en lui-même. Mais je trouve que c'était quand même un film assez brouillon, avec des idées intéressantes, mais qui clairement, Nolan faisait un film avant tout pour lui-même, on aurait dit. Il prenait pas en compte le public en lui disant à la fois de pas chercher à comprendre et de laisser son imagination vagabonder, tout en ne proposant rien qui fasse travailler l'imagination. Donc voilà, j'étais assez déçu malgré deux acteurs qui sont, je le trouve, géniaux.
C'est intéressant le fait qu'il ait dit avant que son film sorte de ne pas chercher à comprendre et de se laisser porter, alors que c'est pas du tout ce que tu peux faire devant un film comme ça. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une émission sur SoundCloud qui s'appelle La gêne occasionnée, où l'excellent François Bégodeau parle pendant une heure de Tenet. Et pour la faire courte, il montre qu'en fait, Tenet, c'est un peu le syndrome du contrôle de maths au lycée. quand on fait un contrôle de maths au lycée, après, bah, dès que c'est la fin, tout le monde se rejoint dans le couloir et va demander au premier élève de la classe, alors, est-ce que t'as compris? Est-ce que c'est ça qu'il fallait comprendre? Et là, c'est un peu pareil dans les salles, on voit bien, ou même sur Twitter, que, oh là là, t'as compris ça, toi? Non, moi, j'ai compris tout à fait autre chose, mais est-ce que c'était ça qu'il fallait comprendre? Comment il fallait le comprendre? Alors qu'en fait, on s'en fout de comprendre un film, on n'a pas besoin forcément de ça pour l'aimer. Or là, Tenet, c'est un peu différent, parce que pour apprécier les scènes d'action, bah, t'es quand même un peu obligé de comprendre la physique du truc, quoi, même si, franchement, en y repensant, l'histoire n'est pas non plus si compliquée que ça. Moi, j'ai rien compris pendant le film, mais quand y repense deux secondes, en fait, c'est pas si compliqué que ça.
Je pense qu'on en fait beaucoup sur cette difficulté à comprendre le film, alors que finalement, il est assez simple à comprendre. Et au-delà du fond, j'ai aimé la forme. Je trouvais qu'en termes de mise en scène, il était très très bon. Enfin, c'est peut-être aussi le fait de pas être allé voir un film au cinéma depuis longtemps, le fait de se remettre dans le bain qui m'a un peu impressionné sur les scènes d'action, notamment la scène d'ouverture. Moi, tout de suite. Après, peut-être encore une fois que c'est parce que j'étais pas allé au cinéma depuis longtemps. Mais elle m'a appris tout de suite, quoi. J'étais à nouveau plongé dans un film, ça m'a fait du bien. En tout cas sur la forme, après sur le fond, sinon ouais, je suis d'accord.
Et toi, Adeline ?
Alors moi je suis un peu la jumelle maléfique de Nicolas, puisque j'aime pas du tout Nolan. Genre je suis pas du tout une grande fan, et je suis un peu à la reculons, plus par envie d'avoir de quoi débattre, et par intérêt, mais pas forcément pour Nolan. Et je te rejoins, Lucas, dans le sens où il y a ce truc, c'est vachement intéressant ta métaphore sur le problème de maths et des trucs comme ça. Pour autant, j'ai trouvé que le film n'était pas compliqué, et qu'il était compliqué parce qu'en fait, le réalisateur en question, Nolan, nous donne pas les cartes pour comprendre le film, et du coup, c'est un défaut, en fait, c'est un défaut scénaristique. C'est pas que le film est compliqué à comprendre, c'est que le film est fait pour ne pas être compris, et du coup, t'as un peu l'impression qu'on se fout de ta gueule, parce que, bah, au bout d'un moment,
les dialogues sont pourris, en fait. Il essaye de t'expliquer un peu son film par ses dialogues, mais ils sont, je suis désolé,
après, ils sont volontairement, je pense. Ouais, mais tu vois, mystérieux, c'est très volontaire. Je pense.
C'est ça, il complique un peu la chose, alors que c'est pas forcément si compliqué que ça. C'est ce qu'on lui reproche. Après, je suis d'accord, la scène d'intro est quand même visuellement hyper frappante. Là, je me suis dit, moi, j'aime bien Nolan, mais je suis pas un grand fan. Mais là, je me suis dit, waouh, ça va être bien. Et après, ça fait que descendre, quoi. Mais
pareil, j'étais, c'est le retour du roi. Ça y est, cette scène d'opéra, ce symbole du cercle, du temps. On comprend pas tout, mais on est à fond dedans. Avec cette scène aussi entre les trains, ça me fait penser à Stalker de Tarkovsky, la scène entre les trains au tout début. Et après, oui, c'est une déception qui s'accroît, quoi, malgré des scènes sympathiques. Genre la scène d'action, il combat quelqu'un, on ne dira pas qui. Mais... Oui. Voilà, la scène d'action inverse, c'était réussi, mais tout le reste, je trouve que c'est décevant. Même cet avion qui rentre dans le hangar, là, pourquoi faire ça? Ça ne sert à rien. C'est pas très impressionnant, pardon Aline.
Pour autant, je pense que vraiment, il faut noter un truc très fort dans ce film, c'est qu'il promet un Batman magnifique, parce que je pense que Robert Pattinson sauve vraiment le film, et même l'acteur principal est très très fort, et le jeu d'acteur est vraiment fou. Et autant on reproche souvent à Christopher Nolan, notamment pour les personnages féminins, et là pour le coup je suis assez d'accord que Clémence Poésy, elle peut rien faire, mais pour autant Robert Pattinson, il est très très fort, et il conduit un peu un film qui a ses lacunes, et j'ai trouvé que pour le jeu d'acteur, et même l'actrice qui va jouer Diana dans la saison 4 de The Crown, ils sont vraiment très forts, et ils tiennent le film, et c'est pour ça que je pense que quand même il y a pas tout à jeter dans ce film, et en tout cas on peut pas jeter Robert Pattinson.
Mais je suis d'accord que sa carrière prend un tournant très intéressant à Pattinson.
Et à part Tenet, parce que justement il n'y a pas que les blockbusters au cinéma, est-ce que vous avez vu des films intéressants? Lucas, toi, je crois que t'as vu quelques films qui t'ont plu, en tout cas.
Tu parles de... Non, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Au tout début de l'été, je suis allé voir deux films, donc Été 85, que je pensais adorer et que j'ai pas du tout aimé, malheureusement. Bon, je sais pas si certains veulent le défendre, mais on peut peut-être passer. Sinon, j'ai vu Tout Simplement Noir, que j'ai... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, en tout cas, ça m'a un peu laissé de marbre, parce que ça m'a pas fait trop rire, à part certaines scènes, mais je salue quand même la tentative. Et là, il y a une vraie proposition, parce que c'est une sorte de faux documentaire, et au moins, ça essaye quelque chose, quoi. Bon, c'est pas tout à fait réussi, mais bon, je salue la tentative, en tout cas.
Louis, t'as vu des films cet été qui t'ont
rappelé ? En sortie récente, non, pas plus que ça. Rien de très intéressant.
Ben, moi, je pense que c'était un été qui, du coup, du fait des blockbusters qui étaient annulés, reportés, etc., était très français. Et ça peut faire du bien. Je suis très déçue de ne pas avoir pu voir Tout Simplement Noir. J'aurais bien aimé le voir. Et t'es 89, je te rejoins. 85, désolé. Je te rejoins complètement, Lucas, sur mon avis, sur ton avis. Et pour autant, moi, je suis allée voir J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximi, qui était vraiment chouette. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et après, donc, pas français, je suis allée voir Emma de Pablo Larraine, qui était un film qui, scénaristiquement parlant, a peut-être des lacunes, mais au niveau de la photographie, est tellement beau que c'est un plaisir pour les yeux. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film qui faisait autant plaisir d'un point de vue du montage, d'un point de vue de la photographie. Et du coup, c'était vraiment chouette. Mais voilà, ce que je retiendrai de cet été cinématographique calme, c'est que ça a aidé le cinéma français à ressortir et qu'il faut vraiment aller au cinéma pour défendre ce cinéma français et qui bombarde là en ce moment. Enfin, il y a plein de films tout le temps, donc c'est trop bien.
Juste envie de signaler que film français justement qu'on attend beaucoup, enfin je pense pour certains d'entre nous, qui est Mandibule de Quentin Dupieux, mm-hmm. et lui avancé de 2 semaines. Donc c'est un des rares films qui n'est pas retardé mais avancé.
Ouais, il devait sortir en mai, je crois, à la base. Il devait sortir pendant le confinement. Ouais. Là, enfin, il avait déjà été retardé à cause du confinement.
Quoi. Oui, certes, mais au lieu de sortir fin novembre, il sortira mi-novembre. Ouais. Quoi. C'est un truc qui fait plaisir. Quoi. Un petit Quentin Dupieux avec le Palma Show, ça mange pas de pain. Et donc je pense qu'après cette petite mise en bouche, on peut peut-être passer au jeu pour un peu re-rentrer dans le vif du sujet.
Déjà,
le temps passe. Et après un petit jingle qui est nouveau et qui a été concocté par Adeline.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
But don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Et donc, Lucas, tu es toujours le maître du jeu dans cette émission. Donc, on voit que tu as super bien préparé ton jeu. Donc, à toi.
Je viens de le préparer il y a 20 secondes. Mais la dernière fois, je vous avais demandé de jouer sur des filmographies d'acteurs où chacun à votre tour, vous deviez citer un film dans lequel avait joué, par exemple, DiCaprio. Cette fois-ci, même principe, mais avec un réalisateur et pas des moindres, puisqu'on va jouer avec Steven Spielberg. Donc, même principe, chacun à votre tour, vous donnez un film qu'il a réalisé. Et puis, bah, commençons par l'homme qui est à ma gauche, Louis.
Je dirais Jurassic Park.
Évidemment, donc ça compte pour... Enfin, quand il y a des...
Pour la
des
saga,
séries, ouais, des sagas, pardon, ça compte pour la totalité de la saga.
E.T.
Tout à fait.
Indiana Jones, évidemment.
Évidemment.
La Guerre des Mondes.
L'excellent La Guerre des Mondes.
Duel.
Oui, alors c'est un téléfilm, mais j'accepte, bien sûr.
Sorti au cinéma en Europe.
Oui.
Arrête-moi si tu peux.
Effectivement.
Il y a un truc très étrange qui me vient à l'esprit, mais c'est le Tintin.
Oui, mais de Spielberg. T'avais pas aimé ?
Ouais, j'avais eu un peu de mal, mais okay, très intéressant.
Est-ce qu'il a fait le truc, le Nord Express ou le Pôle Express ?
Pas du tout, c'était Robert Zemeckis.
Et ma carrière s'arrête là.
Ah, déjà, sur ton ton en plus.
On va faire un duel, justement.
Allez, Minority Report, allez.
Bien sûr.
Et moi aussi, je sèche. Alors qu'il a une carrière longue comme le bras, mais...
Je te laisse un peu de temps. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui a quand même marqué les esprits début des années 90.
Oui.
Qui n'est pas forcément dans le registre qu'on lui connaît.
Allez, Adeline, re-rentre dans le jeu.
Non, je ne rentrerai pas dans le jeu.
En Joker.
Non. J'allais
dire une
bêtise.
Pour battre Nicolas, faut être deux. Hein. Ah non.
J'allais dire une bêtise, donc j'arrête.
Une petite fille en rose.
Oui.
Qui se balade.
Ah enfin, bah oui, si.
Vas-y.
La liste de Schindler. Ah bien. C'est bon, c'était pas une.
À toi lui encore, tu vois.
Non, bah du coup, Joker Adeline interrompu.
Joker Adeline. Après, je vais citer Sugarland Express, qui est un film qui vient après Duel et qui est un super road movie.
Bah, ok, je ne connaissais pas.
Je pense qu'on peut donner la victoire à Nicolas. Non, sauf si Adeline a
cité. Moi, vraiment, Spielberg.
Il en avait vraiment énormément encore.
Ah ouais, je me doute.
Voilà, t'en as peut-être encore en stock.
Rencontre du troisième type avec Truffaut.
Avec Truffaut.
Évidemment, Lies of Schindler, donc tu l'as dit, évidemment. La couleur pourpre, Lincoln, tous ces films historiques, Cheval de guerre.
Ouais, peut-être si je vous dis Les Dents de la Mer.
Les Dents de la Mer, un petit film, quoi, pas très connu.
Ah, bah, oui.
Ainsi qu'un des premiers épisodes de Columbo, réalisé par Spielberg.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, j'ai vu ça l'autre jour, effectivement.
Mais tu es un puits de savoir, Nicolas.
Mais non, arrête. C'est tonton Spielberg, enfin, Ready Player One, je ne veux pas m'arrêter.
Oui,
le bon gros géant.
Et un film trop méconnu aussi de Spielberg, Munich.
Incroyable, incroyable film.
C'est une vraie claque.
Avec une petite apparition de Michael Lonsdale, d'ailleurs, au milieu.
Oui.
Et très très beau film, pas du tout manichéen.
Voilà, et puis dernièrement, on a donc eu le Ready Player One.
Évidemment.
Petit hommage à Van Halen.
Pentagon Papers et Cheval de Guerre en 2011. et son prochain film qui sera
West Side Story.
Effectivement.
Ah oui.
Oui.
Wow.
Eh bien, est-ce que vous voulez une autre filmographie? Est-ce qu'on a le temps?
On a le temps, on a le temps.
Ok, donc je ne l'ai pas sur le papier, mais je l'ai en tête. Elle est très courte, elle est très facile. Normalement, on va jusqu'au bout. La filmographie de Stanley Kubrick.
Évidemment, j'en étais sûr.
Alors, je vais dire Orange Mécanique pour commencer.
Shining.
2001, l'incontournable.
Eyes Wide Shut, son meilleur.
Barry Lyndon.
Full Metal Jacket.
Oui. On reste deux, il me semble.
Plus.
On en a fait. Ah oui, on a dit ça.
On a dit déjà.
13.
13.
Ouais.
Spartacus.
Oui.
Docteur Falamour.
Lolita.
Oui. Ah oui, c'est celui-là. J'en ai plus qu'un mot en tête, mais.
Ouais.
Et Louis, on va.
Ouais, je vais passer. Je vais passer.
Adeline, est-ce qu'il te reste une idée?
Moi, je fais un Joker Napoléon. Voilà.
Oh, c'est un peu de la triche, mais un film dont on a parlé lors de la toute première émission qu'on a fait, Les Sentiers de la Gloire.
Oui,
ah,
c'est
bien
vrai.
Vu.
Tout le monde, moi j'ai. Oui, t'en as encore deux en stock, c'est ça?
J'en ai deux et demi, donc il y a l'Ultime Razzia, oui. Évidemment, super film noir que je vous conseille, ainsi que Le Baiser du Tueur, qui est un film un peu en deçà de ses autres productions, mais qui a inspiré beaucoup d'autres films après. Et enfin, Fear and Desire, son tout premier film, qu'il a rejeté et répudié, mais. Je ne veux pas voir en hommage à sa mémoire.
Moi, je trouve que tu te la pètes un peu.
En tout cas, grosse masterclass de Nicolas. Bravo à toi. Tu remportes haut la main ce jeu. Bravo.
Bah, super. Bah, est-ce que ça serait pas le temps de passer au débat sur le film du jour?
Et si.
Alors, ça va être un film qui est sorti en France le 17 décembre 1986. J'ai fait une recherche. Le même jour que Le Nom de la Rose, figurez-vous. Et c'est parti pour un petit trailer d'époque.
Ferris, tu es malade. Tâche de ne pas faire d'imprudence, il faut que tu guérisses.
Papa, tu as peut-être raison.
Je sais que j'ai raison.
Qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort.
Ils ont marché. Je vais sécher aujourd'hui, alors habille-toi et rapplique à la maison.
Ferris, mon père aime cette voiture plus que sa vie.
Un homme qui fait passer ce genre de folie avant ses obligations essentielles ne mérite pas semblable voiture.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
La question n'est pas de savoir ce qu'on va faire, mais de savoir ce qu'on ne va pas faire.
La folle journée de Ferris Bueller. La lutte d'un jeune homme pour se la couler douce.
Quel magnifique trailer. Alors Adeline, pourquoi avoir choisi ce film qui a été aussi choisi pour les spectateurs, on le rappelle?
Alors pour les personnes qui ne le savent pas dans cette salle, j'ai fait mon TPE de première sur les teen movies. Et en fait, je trouve que c'est un film qui est très connu et en même temps très méconnu. Parce que souvent, on cite Breakfast Club ou d'autres films, etc. Et pourtant, c'est un film très chouette. Pour autant, je pense que je l'ai choisi voilà, pour son côté très important dans la culture des teen movies et en même temps très à part. Et je trouvais que ça avait un côté intéressant. Et bon, aussi parce que j'aime beaucoup la BO et j'aime bien ce film.
Ok, bah, peut-être... Est-ce que vous l'avez vu déjà avant ou comment l'avez-vous découvert? Lucas, tu l'avais vu avant?
Non, je l'avais pas vu, je l'ai regardé pour les besoins de l'émission.
Ok. Et Louis, tu l'avais.
Comme Lucas, ouais. Okay, pour préparer l'émission.
Je t'avoue que je l'aurais pas lancé comme ça.
On sent une petite animosité déjà.
Non, je vais y venir.
Moi, j'aurais dire, je l'avais découvert grâce à l'incroyable émission Blow Up de Arte, qui avait mis la scène de fête, donc la fameuse scène de fête avec les Beatles, lors de son 200e épisode qui avait pour thème la fête. Et cette scène m'avait donné tellement envie que je me suis dit, je vais voir ce film. C'est comme ça que j'ai découvert ce film. Donc, est-ce que vous avez un petit avis? Peut-être, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être deux camps, on ne sait pas. Louis, qu'as-tu pensé de ce film?
Je pense que je serai entre les deux camps. Okay. Parce que j'ai un avis assez mitigé sur le film. Je trouvais des choses très intéressantes, notamment en termes de mise en scène, des mouvements très chorégraphiés. Tu parlais de la scène de Twist and Shout là, sur le char, que j'ai trouvé très très bien. Mais c'est peut-être la meilleure scène du film et c'est la seule que je retiendrai vraiment de ce film. Après, il y a des bonnes idées, comme les regards caméra de Ferris Bueller qui nous prend vraiment en témoin, qui prend tout l'espace du film et qui emporte même le spectateur avec lui. Mais à part ça, des running gags ouais, qui sont pas forcément très fous, des parents et un directeur qui sont un peu tournés en ridicule sans que ce soit vraiment très subversif non plus. Et puis rien de transcendant après vraiment pour le reste, donc si je devais noter, je lui mettrais vraiment une note moyenne. Je suis assez partagé, assez mitigé. C'était un moment sympa, mais sans que ce soit voilà, mon film préféré.
Adeline, peut-être pour le côté positif, je pense, de la critique.
Mais alors, c'est assez contrasté parce que d'un côté, j'aime beaucoup ce film, et d'un côté, c'est un film qui a ses défauts et qui a ses qualités. Je pense que c'est un film qui est majeur dans l'histoire des teen movies. Et en fait, ce que tu reproches, par exemple, sur les faits que c'est des choses qu'on a déjà vues, etc., c'est parce qu'il faut penser qu'en fait, on ne les avait jamais vues quand c'est sorti. Et que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup eu d'impact sur le cinéma que l'on connaît aujourd'hui et sur certains gimmicks, par exemple, le fait que... Enfin, tout simplement, par exemple, on peut prendre le film Deadpool. Deadpool, c'est un grand hommage, en fait, à Ferris Bueller. Parce qu'en fait, du coup, il brise le quatrième mur tout le temps, comme dans Ferris Bueller. Et même, enfin, je sais pas si vous êtes allé jusqu'à la fin du film, mais à la toute fin du film, il y a cette phrase « Et vous êtes encore là ?»
Avec un peignoir.
Avec un peignoir qui est repris dans Deadpool. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films actuels qui font des grands hommages à ce film. Et en fait, c'est parce qu'il a créé tout un univers très pop et tout un univers intéressant sur comment parler de la jeunesse à une telle période. Je pense qu'il a ses défauts parce que, première anecdote de cette émission, faut savoir que John Hughes, il vient de la pub à l'origine. Et si on réfléchit bien, c'est un film de pub. Enfin, tout le long, en fait, c'est une jeunesse cool, une jeunesse qui a des super Stan Smith, c'est une jeunesse qui veut conduire des bagnoles, qui veut conduire pas n'importe quelle bagnole et tout.
Un montage très rapide aussi.
Voilà, de la bonne musique, il a vendu après la playlist. Du film, enfin, c'est un film très capitaliste, mais voilà, c'est un film que j'aime parce que il a ce côté pionnier, et c'est un film que je n'aime pas parce que il a ce côté trop facile, et finalement, en fait, tu le regardes et tu t'en restes rien parce que t'as peu d'émotion, à mon goût.
Bah, je trouve qu'il y a deux scènes que je trouve plutôt touchantes et réussies dans le film. Il y a la scène du musée qui est devenue un classique un peu, et que je trouve est assez sympathique de voir ces adolescents face à des œuvres et tout. C'est certes très esthétique, trop esthétique, un peu pub, comme tout le film, mais je trouve que c'est assez touchant de les voir dans ce musée. C'est un petit moment de flottement dans le film. Et il y a la scène aussi de la fête, que je trouve qu'il y a une énergie indéniable, en fait, dans cette fête. Et dans le film entier, il y a une certaine énergie. Et comme tu l'as dit, c'est un film qui est important pour le genre, donc qui est assez sympathique. Mais après, sur de l'autre côté, il y a pas mal de choses qui me déplaisent, genre cet humour qui est un peu fatigant, quoi, avec le proviseur qui essaie d'entrer chez Ferris Bueller. Ça fait un peu « Maman, j'ai raté l'avion ». Ou Rambo 5, pour ceux qui ont eu la chance de le voir.
Autre anecdote, c'est d'ailleurs le scénariste de Maman, j'ai raté l'avion. John Hughes, c'est le scénariste de ce film.
Tout s'explique. Cette jeunesse friquée aussi, qui se fera mal dans des Porsches et tout, c'est un peu lassant. Sans compter le héros qui est un peu de tête à claque, quoi. Même si son jeu me fait penser à James Franco, je trouve. Mais voilà, donc je suis un peu mitigé, en fait, aussi, comme vous. Et toi, Louis,
attends, après Lucas, mais juste pour revenir sur ce que disait Aline sur le côté important du film qui pose des stéréotypes qu'on reprendra après. Pour préparer l'émission, j'ai vu American Graffiti et j'ai trouvé que lui, pour le coup, imposait vraiment toutes ces choses-là. Ferris Bueller juste après, mais voilà, je voulais juste rétablir quand même le petit fait que American Graffiti, pour moi, impose vraiment ce
bien
socle-là.
C'est bien plus tôt, American Graffiti.
Je pense qu'on en reparlera.
Mais on en reparlera et je laisse la parole à Lucas sur le film.
Non, mais de toute façon, je vais pas autant descendre le film que ça. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant ce film. Mais voilà, 10 minutes après l'avoir vu, je l'avais déjà oublié, quoi. Et c'est lié à plusieurs choses. Déjà, effectivement, je trouve vraiment pas ça très drôle. Après, attention, c'est un film qui a 35 ans et on sait qu'il y a rien qui vit plus mal que l'humour. Surtout que l'humour, c'est très national, là. C'est un humour très américain. Et en France, on sait qu'on rigole pas forcément pour les mêmes choses. Mais voilà, c'est un humour où tout repose sur des gags attendus. Et surtout sur la bonne tête de Matthew Broderick. Alors c'est vrai, il a une bonne gueule, on a envie d'être pote avec lui, mais ils en font pas grand-chose, à part effectivement briser le quatrième mur. Mais briser le quatrième mur pour briser le quatrième mur, ça fait pas quelque chose de... regardez comment je suis fou, je brise le quatrième mur. Non, bah non, c'est pas forcément drôle en soi, quoi. Et puis sinon, bah il y a autre chose, c'est que on parle quand même d'une jeunesse qui fait un gros doigt à la société, qui célèbre un peu la vie pendant une journée en allant à Chicago, sans les parents et tout ça. Et en termes de mise en scène, à part, tu l'as dit, pour la scène musicale du milieu du film, où là, tu sens qu'il y a quand même il y a quelque chose, il y a une effervescence, bah, tout le reste, je suis désolé, on alterne entre les scènes où on montre effectivement les adultes et des scènes où on montre les jeunes. Et enfin, c'est un peu réalisé de la même manière, quoi. Il n'y a pas vraiment de montagne russe comme ça où on verrait la jeunesse qui vraiment s'explore et explore la ville. Donc voilà, mais bon, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais j'aurais pu m'en passer, quoi.
Mais c'est assez caractéristique, en fait, de la filmographie de John Hughes, dans le sens où, en fait, ça va être des films assez plats. On va, bah, je pense qu'on est un peu obligé de parler de Breakfast Club, mais Breakfast Club, ça va être à peu près pareil, dans le sens où ça va être... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, il y a le côté genre subversif, on va mettre plein de personnes différentes, et il y a des voyous, et il y a des machins, et tout. Mais en fait, finalement, ça reste des choses très plates, et ce qui est intéressant, bah, par exemple, avec American Graffiti, qui va parler d'enjeux beaucoup plus importants, comme la guerre du Vietnam, ou des choses comme ça, c'est que là, en fait, la politique, elle est assez absente de ces films, notamment parce qu'il était très conservateur. Et que...
Ça se voit.
Et que du coup, en fait, c'est une Amérique... Alors, c'est intéressant parce que je me suis demandé si c'était, pour Ferris Bueller, une Amérique assez blanche. Parce que tu vois, tous les personnages, ils sont très blancs, très friqués. Enfin, bon, ils ont quand même un truc assez, assez intéressant. Pour autant, il y a une magnifique scène au moment, bah, du coup, de la chanson où il y a des danses, des trucs assez fous qui sont très beaux et qui montrent la diversité de la ville, etc. Et la folie de ce monde-là. Mais... Pour autant, en fait, c'est vrai que on peut se questionner sur est-ce que des films sur la jeunesse doivent être subversifs ou doivent donner aux jeunes qui le regardent une envie de s'exprimer ou pas. En fait, ce qu'on a souvent dit sur les films de John Hughes, et c'est pour ça que Ferris Bueller, il est vraiment intéressant, c'est que ça a été un film qui a été écrit non pas pour la jeunesse, dans un sens, on va donner des tickets, enfin, les gens vont acheter des tickets, etc., mais c'était un film qui a été pensé sur la jeunesse. Ça peut avoir, enfin, on peut être en désaccord, mais je pense que c'est vrai quand même que c'est quand même un film qui a été pensé sur la jeunesse et qui explique la jeunesse des années 80, à mes yeux.
On reviendra aussi sur d'autres films qui expliquent la jeunesse dans les années 80 ou d'autres années, juste après une petite pause. Mais est-ce que vous avez une appétence pour le genre teen movie en particulier de votre côté?
Pas du tout, et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que j'adore les films qui traitent de la jeunesse, parce qu'un teen movie n'est... Un film qui parle de la jeunesse n'est pas forcément un teen movie, quoi. Tout teen movie est un film sur la jeunesse, mais un film sur la jeunesse n'est pas forcément un teen movie, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Ouais, très bien. Toi, Louis, tu as une appétence pour le genre?
Je suis d'accord avec la remarque que vient de faire Lucas. Et sinon, non, pas forcément d'appétence pour le teen movies. Et je me suis rendu compte en préparant l'émission que la liste des films à regarder était longue parce que j'en avais pas vu tant que ça. Et avant de consacrer une émission dessus, je m'étais pas penché tant que ça sur des teen movies.
J'ai l'impression que c'est un peu moins dans la culture française. Le teen movie, c'est très anglo-saxon. Nous, on a eu quelques tentatives. Bah, La Boom ou LOL, c'était ça, non? Le truc avec Sophie Marceau. Mais bon, il y en a sûrement d'autres, mais c'est quand même moins dans notre culture, j'ai l'impression.
Peut-être parce qu'on sait moins s'exprimer sur la jeuneesse, en fait, je pense que...
Ah bah non, tu vas voir que non, juste après.
Non, mais par exemple, oui, je sais, mais sur le film de fiction, il y a une vraie réflexion sur, et d'ailleurs sur ce qu'on fait maintenant en film français, où, j'avais écouté un truc qui disait qu'en fait, les seuls teen movies récents français, c'était les films Les Beaux Gosses de Riyad Sattouf, où vraiment il y avait un questionnement un peu plus intéressant. Mais par exemple, on va regarder des films comme Elfun ou des trucs comme ça qui sont vraiment à des années-lumière de ce qui est la vraie jeunesse française. Et même LOL, à mes yeux, c'est à des années-lumière de ce qui existe. Mais en fait, ce qui est intéressant, la jeunesse du teen movie, ça vient avec le film La Fureur de Vivre, avec James Dean. Et en fait, c'est ultra intéressant de voir comment ça a dévié, parce qu'en fait, La Fureur de Vivre, c'est vraiment plus la question de... cette jeunesse qui s'ennuie, cette jeunesse qui n'a rien à faire, cette jeunesse un peu à côté et qui va faire des trucs fous pour pouvoir vivre. Et en fait, le teen movie, normalement, c'est plus la question de qu'est-ce que c'est la vie et plus des questionnements, de représenter des questionnements vraiment intrinsèques à la jeunesse et ce qu'on a perdu un peu maintenant dans le cinéma actuel, je trouve.
Bon, je pense qu'on a fait le tour peut-être de Ferris Bueller. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film en lui-même?
Peut-être le devenir des acteurs?
Allez, on peut finir avec le devenir des acteurs. Et que sont devenus les acteurs?
Alors, on a Molly Ringwald. Non, pas du tout Molly Ringwald, qui n'est pas du tout dans le film, qui est dans Breakfast Club. On a Matthew Broderick, c'est ça?
Broderick, oui.
Broderick, qui est le seul qui a fait quelque chose après, en fait. Ouais. Parce qu'il a fait, en ce moment, le dernier film qu'il a fait, c'est Manchester by the Sea.
Ok.
C'est un peu l'éternel second rôle. Des fois, il est un peu en premier rôle, mais c'est plus... maintenant, il joue un peu plus dans des films d'espionnage ou des choses comme ça, même s'il a eu un gros passage à vide il y a quelques années. Et sinon, en fait, toute la bande, en fait, à John Hughes, ils ont un peu sombré dans le néant. Il a souvent rejoué avec les mêmes acteurs, Et en fait, du coup, ils sont un peu essoufflés parce que le rôle du teen movie, en fait, c'est très dur sur des épaules d'un acteur jeune, en fait, parce que t'en sors difficilement. Mais on peut noter que dans Ferris Bueller, dernière anecdote, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Charlie Sheen à la fin.
Qui est dans le commissariat, c'est ça ?
C'est ça, il est dans le commissariat, oui. En fait, et c'est... Enfin, moi, à mes yeux, c'est un peu un rappel de la fureur de vivre, parce qu'il y a le côté voyou, fils sage, etc. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un peu un...
Avec le blouson en cuir.
Petit bad boy et tout. Ouais. Et voilà, et en fait, c'est assez drôle, parce qu'ils sont restés assez proches, la famille Sheen, avec John Hughes. Et voilà, dernière anecdote sur Ferris Bueller, même si on a plein.
Ok, ben on va peut-être passer justement, peut-être continuer de parler des teen movies en parlant entre autres de La Fureur de Vivre et d'autres films, après une toute petite pause musicale. Et donc la jeunesse, c'est une source intarissable de sujets, c'est présent dans un peu tous les genres. Et donc on va un peu profiter d'une vingtaine de minutes pour parler des films sur la jeunesse au sens large. Donc on va voir qu'il y en a beaucoup au-delà des teen movies en eux-mêmes. Donc est-ce que vous avez peut-être un petit film préféré qui traite de la jeunesse ou quelques films qui vous ont marqué particulièrement sur le sujet, Lucas ?
Oui, plein. Enfin, je vais m'étaler sur deux particulièrement, mais je commencerai par dire que la jeunesse et l'adolescence, c'est quand même un super sujet cinématographique, parce que c'est quand même une période où pendant 4-5 ans, t'as énormément de choses qui changent pour un individu, son corps déjà, sa façon de penser, il peut devenir... Enfin, c'est vraiment le point de non-retour entre l'enfance et le monde adulte, quoi. Donc c'est sûr que cinématographiquement, pardon, t'as, je pense, beaucoup de choses à faire, et il y a des vrais auteurs avec de vraies visions d'artistes qui ont pu... s'en emparer, et donc c'est notamment le cas évidemment de Abdelatif Kechiche,
évidemment,
qui a pondu un chef-d'œuvre il y a 2 ans qui s'appelle Mektoub My Love. Alors, vous l'avez vu, enfin, tous?
Non.
Moi je l'ai vu, j'étais un peu réticent à l'idée d'aller le voir, mais oui, c'est un chef-d'œuvre en fait, c'est incroyable.
Pour la faire courte, hein, c'est pendant 3 heures des jeunes qui parlent sur une plage et qui vont en boîte le soir. Voilà, il se passe que ça, il n'y a pas une histoire faramineuse avec plein de retournements de situation. Alors ça va peut-être rebuter certains. Moi aussi, moi non plus, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de regarder ça, quoi, parce que c'est sûr que sur le papier, bon. Mais c'est tellement vrai dans les dialogues, dans la façon de jouer. De toute façon, on sait que les acteurs qui jouent dans des films de Kechiche, je pense que c'est leur meilleure performance à chaque fois, parce que magnifique directeur d'acteur. Et donc là, voilà, bon, ça a été dit et redit sur le film, mais c'est une véritable ode à la jeunesse, célébration des corps. Vous allez voir des corps de jeunes nus ou sur les plages, mais c'est hyper beau. Et enfin voilà, s'il y a quelque chose un peu d'indicible dans ce film, c'est hypnotisant, mais on sait pas trop pourquoi en fait. On adore le film, mais
c'est ça qui est fort.
C'est pas trop pourquoi. Ouais.
Avec Issus, parce que il a réussi à représenter à la perfection une jeunesse qui s'explore, comme tu le disais pour Ferris Bueller. Et là, c'est vrai que c'est vraiment pas des riches qui ont plein de sous et qui le dépensent. C'est une famille, des amours, tout ça autour de la plage, tout en microcosme, quoi, qui se déroule à 7, et c'est fou.
Et l'intelligence de Kechiche, c'est de faire du personnage principal quelqu'un d'assez timide et observateur, qui en fait, il se représente lui-même à travers ce personnage. Mais donc, du coup, nous aussi, spectateurs, ça nous met en tant que voilà, que spectateur face à cette bande de jeunes qui cherchent qu'à baiser, qu'à boire, enfin, c'est un peu réducteur, mais, et qu'à parler, qu'à draguer sur une plage. Et voilà, ça va tous nous rappeler des souvenirs, ou pas d'ailleurs, mais on a tous connu ce moment de jeunesse, un peu comme ça. Et enfin, voilà, enfin, c'est formidable, regardez-le, quoi.
Louis, t'as un coup de cœur sur le sujet?
Les teen movies, du coup...
C'est pas un teen movie, c'est un film sur la jeunesse, quoi.
Les teen movies, j'ai un petit peu de mal. Après, les films sur la jeunesse, il y en a que j'aime beaucoup, en effet. Mon préféré, ça va être les 400 coups. Pour rester très classique, et forcément, je pense que ça suit de beaucoup. Après, du coup, la fureur de vivre, on en parlait tout à l'heure, qui pour moi est... voilà, le meilleur dans le genre. Je sais pas si on peut le considérer comme un teen movies ou pas, du coup.
C'est le pionnier des teen movies.
Si c'est le pionnier, alors j'aime un teen movies.
Parole de TPE.
La fureur de vivre, rien que dans le titre, ou même le titre en anglais, Rebel Without a Cause. C'est-à-dire rebelle, mais sans trop savoir pourquoi. Et pour moi, c'est ça un peu l'essence du film sur la jeunesse ou du teen movies, c'est se rebeller, mais sans trop savoir pourquoi. C'est pour moi le pionnier et un de mes teen movies préférés, du coup. Et sinon, très récemment, il y a des films qui m'ont marqué. Moonrise Kingdom de Wes Anderson, classique aussi, mais très bien. Et très récemment, il est sorti à 3 ans, The Florida Project de Sean Baker, qui était un très beau film aussi sur une petite fille dans une genre de résidence un peu pavillonnaire et qui sait pas quoi faire de ses journées avec une mère qui s'occupe pas trop d'elle. Et pareil, sur l'émancipation, le fait de pas savoir quoi faire, mais se rebeller, en faire qu'à sa tête. Un très beau film aussi, ouais.
Adeline, toi, un film sur la jeunesse en particulier, teen movies ou pas, du coup?
Bah, écoutez, moi je suis friande de tous les films sur la jeunesse et teen movie ou pas teen movie ou des choses comme ça, mais là, un des films qui me vient en tête, c'est un film qui est sorti l'an dernier. Et c'est 90s de Jonah Hill. Et j'ai trouvé que ça faisait longtemps qu'un film sur l'adolescence, vraiment, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le teen movie, c'est vraiment ce passage entre ce que nous, on pourrait considérer la 6e et la 5e. Quoi. Genre vraiment, t'es un bébé et tu deviens un mi-adulte. Et en fait, j'ai trouvé que ce film était très, 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 très bien réalisé. Enfin, Jonah Hill, je trouve que c'est un très bon réalisateur en puissance. Et que c'était vraiment très touchant. Après, voilà, il y a plein de films et je pense que j'aime tout. Et je pense que dès que ça parle de l'adolescence et que ça en parle d'un point de vue intéressant et que ça se laisse couler, par exemple, que ce soit en documentaire ou en fiction, c'est toujours bon à prendre. Voilà.
Et toi, Nicolas?
Du coup, pour bondir un peu sur deux films que vous avez cités, donc. J'ai pas de film préféré sur la jeunesse, mais c'est vrai que récemment c'est Make to My Love qui m'a beaucoup marqué. Et pour citer peut-être un autre film français dans la même veine un peu naturaliste, même si c'est un peu plus onirique, c'est Trois souvenirs de ma jeunesse.
Ah oui, Desplechin.
De Desplechin, qui est toujours avec son personnage qui est un peu son Antoine Doinel, qui est Paul Dédalus, si je me rappelle bien. Qui est un film qui m'a hypnotisé aussi.
Ouais, pareil. Et pareil, là, tu sais pas trop pourquoi. Non, il y a quelque chose.
Mais il y a une justesse, en fait. Ouais. Il y a une justesse dans le ton de cette jeunesse qui est captée et qui est magnifique. Donc, je vous conseille vraiment Trois souvenirs de ma jeunesse. J'ai vu aussi un des autres, des Paul Dédalus, celui qui est sorti après, mais je n'en ai aucun souvenir. Sorti il y a 3 ans, je ne sais pas si vous avez le titre.
Les fantômes d'Ismaël.
Les fantômes d'Ismaël, oui. Je l'ai un peu oublié. Et par rapport aux 400 coups, donc évidemment, Truffaut, on l'oublie un peu, mais c'est un cinéaste sur la jeunesse
on
aussi.
On l'oublie pas.
On l'oublie, je trouve. Parce que L'argent de poche, par exemple, qui est un film qui est vraiment, c'est jamais cité de Truffaut, et qui est un film que sur un prof et des enfants tout autour, et qui est un très beau film dans mes souvenirs. Et j'aimerais citer, juste pour le petit côté histoire du cinéma, un film qui a, je pense, enfin j'en suis sûr même, inspiré Les 400 coups, qui est Zéro de conduite, de Jean Vigo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est donc Jean Vigo qui n'a réalisé qu'un seul long métrage. Et 2-3 courts-métrages.
Et les documentaires aussi.
Oui, à propos de Nice, un documentaire un peu expérimental. Et Zéro de conduite, c'est un film super beau qui date des années 30, donc très onirique. Je crois que c'est un moyen-métrage d'une demi-heure, de 40 minutes. Où justement, avec des enfants qui font les 400 coups, donc Zéro de conduite, on dirait un peu une petite référence. Et sur des enfants qui se battent avec des polos fonds dans un internat. Et c'est vraiment très beau, je vous le conseille tout à fait. C'est un film qui est résolument moderne et qui, je trouve, n'a pas tant vieilli que ça.
Mais ce qui est intéressant, avec, enfin, ce que tu dis par rapport à Zéro de conduite ou des choses comme ça, c'est que aussi, ce qui est intéressant dans les films de la jeunesse, c'est que ça représente vraiment une époque. En fait, je pense que c'est ce qui est assez drôle, c'est que filmer de la jeunesse, ça filme toute une société et toute une société à un moment donné. Parce que en parlant de Zéro conduite, tu me fais penser à La Guerre des boutons d'Yves Robert, qui pourtant est une comédie. Et mais en fait, le vrai truc intéressant, c'est que en filmant des enfants, ça filme une époque et ça filme vraiment une façon de penser à une telle époque, parce qu'en fait, c'est le reflet le plus pur d'une façon de penser d'une société, en fait. Parce que c'est les incarnants d'une société. Et que, en fait, souvent, les personnages récurrents de cette movie, c'est les profs. Et les profs, c'est la République, en soi. Ouais.
Et l'hussard noir de la République, comme dit l'expression.
Finalement.
Ouais, bah, juste pour terminer, moi, je voudrais revenir sur un documentaire, cette fois, qui est sorti très récemment, qui a sauvé complètement mon été cinématographique, qui pour moi est un chef-d'œuvre documentaire, j'ai pas peur des mots. C'est bon, le nom est révélateur, ça s'appelle Adolescente au pluriel. Donc c'est un documentaire de Sébastien Lifshitz et qui est juste incroyable. Donc pour la faire pour résumer, il a suivi pendant 5 ans deux jeunes amies, donc de leur elles ont commencé en 3e, je pense, parce qu'il y a au collège, et on les suit jusqu'à ce qu'elles aient leur bac et qu'elles partent en études sup. Enfin, en tout cas, une des deux donc voilà, pendant 5 ans, il les suit, il a eu 500 heures de rush. Donc c'était de 2014 à 2019. Et on suit leur parcours, comment elles vivent chez elles à la maison, au lycée. Et l'intelligence du réalisateur, c'est qu'il a pas pris deux amis au hasard. Il y en a une qui est plutôt une fille de prolo, et l'autre, pas une fille de bourgeoise, mais quand même, elle a de bien meilleures dispositions, avec des parents qui l'accompagnent, etc. Et en fait, en plus d'avoir un discours sur l'adolescence, sur ce que c'est de grandir et tout ça, eh bien, il y a un vrai discours sur le déterminisme social, parce qu'on sent qu'au fil des années, en fait, ces deux amies, bah, elles n'ont plus forcément la même vision du monde, plus forcément le même parcours. Et bon, sans divulgâcher, on verra que il y a des parcours qui se séparent. Donc c'est quand même assez fort comme geste cinématographique. C'est 5 ans en termes de production, j'ose même pas imaginer les risques que ça a coûté. Et enfin, c'est juste fascinant de voir ces deux filles grandir, découvrir leur corps aussi. Des fois, c'est un peu mis en scène, hein, malgré le fait que ce soit un documentaire, mais c'est aussi ça la force du truc. Ça dure 2 heures, mais ça passe enfin, j'ai l'impression d'être resté une demi-heure dans la salle. Et ça raconte aussi quelque chose de l'histoire de France, parce que de 2014 à 2019, il y a par exemple les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. Et parfois, dans le documentaire, on est confronté à des images qui ont été filmées sur téléphone et là, tu les vois dans une salle de cinéma, ça fait quelque chose. C'est pas comme quand tu les vois sur ton téléphone où tu peux vite changer ou éteindre ton portable. Là, t'es dans la salle, dans le noir. Et ça raconte vraiment quelque chose de l'histoire de France. C'est vraiment fascinant et chef-d'œuvre.
Est-ce que vous l'avez vu peut-être ?
Je l'ai vu, oui, il y a 2 semaines, je pense. Et oui, je te rejoins, c'est vraiment magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, c'est de lire des interviews des deux et de savoir un peu la genèse du projet. Parce qu'en fait, moi, j'avais plein de questions sur les moments où c'est un peu mis en scène ou des choses comme ça pour me questionner en fait sur quel était l'impact en fait du réalisateur sur leur vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il faut penser que ces deux filles-là, elles n'ont pas été seules pendant 5 ans, elles étaient quand même filmées par quelqu'un qui...
20 jours par année.
C'est ça, qui venait de temps en temps, mais il y a quand même un truc... réfléchir à, pendant 5 ans, qu'est-ce que vont devenir ces rushs, etc. C'était ultra intéressant à lire. Et voilà, je trouve que je rejoins Lucas. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que filmer la jeunesse, c'est filmer tout un état d'une France pendant 5 ans. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il a choisi un lieu qui est quand même trop chouette, c'est qu'il a choisi Brive-la-Gaillarde, qui n'est ni une petite ville, ni une grande ville, mais qui reste une ville, et du coup on peut avoir assez de mixité pour rencontrer des gens différents, mais pas trop de mixité pour qu'en fait finalement il y ait un déterminisme social qui se fasse dès la naissance en fait. Brive-la-Gaillarde, j'ai trouvé que c'était un lieu parfait, et voilà, je pense qu'on peut conclure sur ce film, sur « Faites des films à Brive-la-Gaillarde ».
Mais du coup, oui, pas besoin non plus d'être... C'est vrai que le cinéma français, j'ai l'impression qu'il y a une vision assez documentaire ou naturaliste de la jeunesse, comme on a cité les 400 coups, Make to My Love, les Desplechin. C'est toujours... c'est jamais non plus de la fiction pure. Mais je trouve que la jeunesse, ça peut aussi s'inscrire dans des genres très spécifiques, donc la SF ou l'horreur, en l'occurrence. On a vu It Follows il y a quelques années, ou l'autre film du réalisateur dont j'ai oublié le nom, Under the Silver Lake, il y a 3 ans.
David Robert Mitchell.
Mais moi aussi, la jeunesse et les teen movies, ça m'évoque un film auquel on va peut-être pas penser de suite, mais c'est Retour vers le futur, qui est évidemment un film sur des jeunes, sur la jeunesse de deux époques, du coup, des années 50 et des années 80. Et je trouve que donc c'est un film culte des années 80 que vous avez, je pense, vu tout à fait. Et c'est un film aussi qui, je pense, s'inscrit dans la lignée de American Graffiti dont tu parlais tout à l'heure, Louis, parce que ça part aussi de ces années 50 fantasmées. Totalement fantasmé. Et c'est marrant que les réalisateurs, en fait, veulent toujours filmer la jeunesse d'aujourd'hui à travers le souvenir de la jeunesse d'hier. Donc je trouve qu'il y a souvent ce mélange un peu de deux époques. Truffaut, par exemple, quand il filme Les 400 contes dans les années 50, il parle de sa jeunesse à lui dans les années 40. Et donc, oui, je trouve que même à travers donc les... Même quand ce n'est pas un documentaire, la jeunesse est toujours un état documentaire de la société quand elle est le sujet d'un film. Est-ce que vous avez des films en dehors des documentaires, donc peut-être dans un cinéma plus de genre, comme l'horreur ou la SF, qui vous ont marqué?
Il y a Donnie Darko, qui est un film avec Jane Gyllenhaal. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que c'est un film qui est peu marquant en France. Étrangement, il y a peu de gens qui l'ont vu, et enfin, il n'est pas très marquant, mais aux États-Unis, ça a un vrai impact. Ce qui est très drôle, en fait, c'est un film qui est complètement loufoque, mais qui parle vraiment beaucoup de l'adolescence et de ce que c'est de vivre un peu une dépression dans le moment de l'adolescence. Et c'est très touchant et un peu bizarre en même temps. Donc je vous invite à regarder, c'est assez chouette.
Louis, il y a un genre en particulier peut-être auquel tu penses?
Bah, des teen movies dans un genre particulier. Moi, je pense à Grease, hein, comédie musicale. J'écoutais encore quelques musiques là, en arrivant, histoire de me mettre dans le bain. Mais malgré tous les stéréotypes, etc., je trouve qu'il est... Bizarrement, il marche bien. Il est très cliché, très kitsch. Mais il marche. Les acteurs,
les
sont
acteurs
des adultes.
Sont clairement trop vieux.
mais il marche. Voilà, faut le prendre second degré presque. Et...
Mais je pense qu'on pourrait faire une émission entière sur la comédie musicale et les adolescents, parce que ouais. West Side Story, oui, c'est aussi sur l'adolescence. Enfin, c'est sur l'entrée dans l'âge adulte. Et il y a un réalisateur dont j'essaie de me rappeler le nom depuis le début de l'émission, mais j'ai oublié, mais qui a fait Hairspray et qui a aussi fait Divine. Bon, c'est un truc comme ça à la fin, mais en gros il a fait Cry Baby aussi avec Johnny Depp, et en gros c'est sur Baltimore, c'est sur la jeunesse à Baltimore et sur le côté un peu déjanté, etc. Et en fait c'est vraiment intéressant de voir comment la chanson et le chant peut donner un impact sur la jeunesse et donner un côté un peu pop aussi à ça.
Un film aussi, donc là rien à voir avec la comédie musicale, mais sur la jeunesse, que je recommande, c'est Elephant de Gus Van Sant.
Oui.
Un réalisateur que j'adore et un film que j'adore pour le coup.
Palme d'Or à Cannes quand il est paru, mais un incroyable film. Lucas, peut-être un dernier film à citer.
Ouais, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant que tu parles de films d'horreur tout à l'heure, parce que c'est vrai que dans le cinéma d'horreur, j'y avais pas pensé, mais c'est tout le temps des jeunes qui se font découper. Et du coup, ça m'a fait penser à Midsommar,
oui,
d'Ari Aster, qui est sorti l'année dernière, ouais, c'est ça, l'été dernier, qui est un film d'horreur, mais bien loin des clichés, ou avec des screamers, où des gens vous sursautent à la gueule pour vous faire sursauter. Non, là, c'est pas du tout ça. C'est un film qui est long déjà, qui dure 2h30, mais ouais. C'est tellement hypnotisant. Et tout se passe de jour, en extérieur, ce qui est une première originalité pour un film d'horreur. Je peux pas trop en dire plus, en fait, mais regardez-le et attendez-vous à être assez gêné, perturbé.
J'hésitais à le mettre pour la prochaine mission dans mon petit papier. Ouais,
c'était une vraie claque, quand même, ce film. Enfin, je compte Midsommar.
Ok, ben on peut peut-être arrêter là pour le débat sur les teen movies, car l'émission approche de sa fin, et ça va être le temps pour une petite virgule avant des recommandations. Du coup, avez-vous des recommandations peut-être? Je vous prends un peu au dépourvu, parce qu'on oublie souvent de faire des recommandations. Louis, tu as des trucs à nous conseiller?
Premièrement, j'ai deux petites choses à vous conseiller. Premièrement, c'est une série. J'ai pas l'habitude de regarder beaucoup de séries, mais j'en avais déjà conseillé une dans notre dernière émission, c'était The Last Dance. Et là, c'est aussi une série Netflix, en 4 épisodes, une mini-série. Ça s'appelle When They See Us. C'est en 4 épisodes, je crois que je l'ai dit, sur l'affaire des 5 à Central Park, donc des jeunes afro-américains de Harlem qui sont accusés à tort d'un crime et d'un viol qu'ils n'ont pas commis, et je trouve que la mise en scène est superbe, le montage superbe, l'acting superbe. J'ai vraiment adoré cette série. Et enfin, avant de préparer cette émission et de me plonger dans les teen movies, j'étais sur un petit cycle Wim Wenders. J'ai essayé de creuser sa filmographie. Et au-delà de Paris, Texas ou des Ailes du Désir que beaucoup connaissent, je conseillerais un de ses documentaires. Ça s'appelle Buena Vista Social Club sur ce groupe de musique cubain. Et il y a des vraies bonnes idées de documentaires. Donc voilà la petite reco.
Adeline, une reco ?
Moi, je suis prise de court là, je sais pas. Donc vu que mon seul sujet de conversation en ce moment, c'est la reine d'Angleterre et tout ce qui touche autour, je vous conseillerais, si ce n'est pas déjà fait, de regarder The Crown, en fait. Toute la journée, toute la nuit, faites que ça. Regardez The Crown et rêvez de Lady Diana.
Non, merci. Lucas, toi, une reco ?
Ouais, ouais. Déjà, je commencerai par dire que j'ai suivi ta recommandation, Louis, et j'ai regardé pendant l'été The Last Dance. Et ce serait peut-être intéressant d'y revenir le mois prochain, parce que j'ai pas été totalement convaincu. Donc, il faudra peut-être débattre un peu là-dessus. Mais sinon, en début de semaine, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Le Président, réalisé par Yves Geland. Documentaire sur le monde de la politique, puisqu'il suit pendant quelques mois la campagne de Georges Frêche, un membre du Parti Socialiste qui essaye de gagner la présidence de la région Languedoc. Et évidemment, l'originalité du truc, c'est que ce mec, Georges Frêche, déjà physiquement, c'est un ogre.
Gros filou.
Et bon, c'est un personnage, quoi. Il a des sorties très douteuses, quand même. Et voilà, un peu à la manière de Raymond Depardon, l'excellent, le divin Raymond Depardon, qui avait fait pareil en 1974 sur Valéry Giscard d'Estaing. C'est un documentaire qui s'appelle 1974, une partie de campagne. C'est génial, regardez ça.
Deux salles de ambiance quand même. Entre Valéry,
ouais,
entre
mais, BGE. Oui, oui, mais c'est la même manière de filmer, quoi. Mais oui, c'est sûr que politiquement, c'est pas les mêmes. Mais donc voilà, le président d'Yves Leland, c'est assez fascinant.
Et toi, Nico, une reco ?
Moi, alors, je n'avais pas préparé de reco alors que je vous en demande, mais je pense là de suite au dernier film que j'ai vu au cinéma, qui est un film de 1969, donc c'était une ressortie, qui est Le Point de non-retour de John Boorman, qui est un incroyable film avec Lee Marvin, qui est vraiment une gueule de cinéma incroyable. Et c'est un film qui préfigure un peu le nouvel Hollywood, qui est sorti à la fin des années 60, et qui est un film un peu halluciné, sur un gars qui veut se venger en oubliant au final pourquoi il se venge, avec un faux motif pour récupérer son argent. Et c'est un film dont les plans ont infusé tout le cinéma hollywoodien, je trouve, après. Il y a des plans de sniper, ou cette ambiance parano qui annonce vraiment les années 70 avec le Watergate, et des films comme Conversation secrète de Coppola. Et c'est un film assez étrange mais fascinant, je trouve, de John Boorman, donc le réalisateur entre autres de Deliverance, qui signait là son deuxième film et son premier film américain. Donc voilà, c'est un film qui est trouvable assez facilement, je pense, en vidéo, et dont je vous recommande, sans aucun rapport avec l'actualité, le visionnage. Enfin, après ces petits trocots, est venue l'heure de tirer au sort le prochain film, car c'est comme cela que fonctionne notre émission maintenant. Donc on a préparé nos petits papiers, et c'est Victor qui est à la réalisation, qui va de sa main innocente piocher un de ces papiers. À
alors,
toi Victor.
Innocente, c'est pas dit, parce que je vous avoue que ma folie des grandeurs m'a plutôt tourné vers le plus gros papier, même si ça veut absolument rien dire. Et donc on est sur Blade Runner.
Oh là là.
Quelle est la personne qui a recommandé ce super film ? Bravo à toi,
Louis.
J'ai hâte qu'on en débatte.
Je suis un peu curieux, j'aimerais savoir quelles étaient vos recommandations quand même. Enfin, vos envies.
Moi j'ai mis L'Homme de Rio.
Ah.
Qui est génial, quoi. C'est la meilleure adaptation de Tintin au cinéma. Enfin, bon, c'est incroyable, L'Homme de Rio. Peut-être qu'on en reparlera. Lucas, toi, tu as mis quoi ?
J'avais mis Mulholland Drive.
Okay. Oh là là. Que du lourd. Et toi, Aline ?
J'avais mis Je t'aime d'Alain René.
Pas voilà. Du tout vu.
Bah, c'est pour ça.
Ok, bah.
Un peu de culture.
Sacré Alain René. Et donc, je me l'envie de parler de ce Blade Runner, qui est, je pense, un de mes films préférés.
Parler science-fiction, ouais. parler dystopie et autres.
Et de sa suite aussi.
Et de sa suite, 2049, Blade Runner 2049.
Voilà, tant de films à voir.
Ouais, un beau programme.
Et ben, bah, vivement la prochaine émission, donc. Et la séance du dimanche, c'était déjà fini pour aujourd'hui, hein, malheureusement. Et on revient très vite, donc, pour une émission spéciale entre deux émissions régulières, qui est réalisée en partenariat avec le Festival des Étoiles Documentaires de la SCAM. On est très content qu'ils nous aient contactés. Et ça sortira seulement en podcast, donc sur la page de Radio Campus Paris, mais aussi sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Ça sortira le vendredi 6 novembre. Et puis l'émission régulière, donc sur Blade Runner, on peut vous le dire déjà, sortira le 15 novembre. Donc n'hésitez pas à nous écouter, comme d'habitude, en podcast ou en direct à la radio. Et on espère que cette émission vous aura plu. Donc n'hésitez pas de nous suivre sur Instagram, à Vitamine Ciné, et à nous envoyer des mots doux. Donc l'émission d'aujourd'hui, comme les précédentes, est disponible sur le site de Radio Campus Paris, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. La séance du dimanche, c'est une émission du collectif Vitamine Ciné, avec donc Adeline, Louis, Lucas et moi-même Nicolas. Et l'épisode du jour a été réalisé par Victor Benham et mixé par Serge Santaliestra. À très bientôt.
Bisous.
À plus.